Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à votre émission Parole au présent. C'est Claude Julien qui vous parle. Je suis en compagnie de Francine Robert, professeure à l'Institut pastoral des Dominicains à Montréal. Alors, Francine, nous poursuivons notre lecture de l'Évangile selon Saint-Luc au 16e chapitre qui porte sur l'argent. Tout indique que dans les communautés de Luc, la question se posait, sans doute. Il devait y avoir des pauvres, il devait y avoir des riches, etc. Parce que dimanche dernier, c'était aussi un enseignement sur l'argent. Et aujourd'hui, dans le même thème, c'est une parabole dont les deux personnages se nomment l'un Lazare et l'autre n'a pas de nom.
Eh bien non, Claude.
C'est un riche.
L'autre n'a pas de nom et savez-vous que, de toute manière, l'originalité n'est pas sur le fait que l'autre n'a pas de nom, mais sur le fait que Lazare a un nom. C'est le seul dans les quatre évangiles, c'est le seul personnage de parabole qui a un nom. Faut le faire.
Ouais.
Parce qu'après tout, les paraboles, je vous le rappelle, ce sont des personnages fictifs, hein, des personnages que Jésus invente. Alors, celui-là, il a un nom. Lazare, c'est la forme grecque d'un nom hébreu assez connu, Eléazar, c'est-à-dire Dieu, elle, c'est Dieu, aide. Hazar, c'est le verbe aider. Donc, notre Lazare s'appelle Dieu aide. Donc, ça va être intéressant de s'en souvenir pendant que vous lirez la parabole. On avait, je vous rappelle, Claude, la semaine dernière, une parabole choquante, hein, l'intendant malhonnête qui est pourtant louangé par son maître. Ça avait quelque chose d'un peu choquant parce qu'il réglait son problème de perte d'emploi en diminuant les dettes avec l'argent qui était dû à son patron, finalement. Et il faisait ça dans le but d'avoir des gens qui allaient l'aider lorsqu'il serait mal pris. Alors, aujourd'hui aussi, on a une parabole choquante. Je dirais qu'elle est choquante sous deux angles. C'est deux aspects différents et selon que c'est l'un ou l'autre, ça choque pas, je pense, les mêmes personnes. Alors, je vous invite tout le monde à essayer de voir qu'est-ce que vous trouvez de choquant en écoutant cette parabole.
C'est au chapitre 16 de l'Évangile selon Saint-Luc. Jésus leur dit une parabole. Il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de lin très fin, et il faisait chaque jour de brillants festins. Un pauvre, du nom de Lazare, avait été jeté devant le portail de sa maison. Il était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais c'était plutôt les chiens qui venaient lécher ses ulcères. Or, le pauvre mourut et fut emporté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enseveli. Au séjour des morts, comme il était dans les tourments, il leva les yeux et vit de loin Abraham avec Lazare tout près de lui. Alors il cria, « Abraham, mon père, aie pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » Abraham lui dit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens durant ta vie et Lazare les malheurs. Maintenant, il trouve ici la consolation et toi la souffrance. De plus, un grand abîme a été mis entre nous et vous pour que ceux qui veulent passer d'ici vers vous ne puissent pas et que de là, on ne traverse pas non plus vers nous. » Le riche dit, « Je te prie alors, Père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai cinq frères qui les avertissent pour qu'ils ne viennent pas eux aussi dans ce lieu de tourment. » Mais Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » L'autre reprit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un de chez les morts vient à eux, ils se convertiront. » Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourrait bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. » « Alors, Francine, je vous donne la parole pour amorcer l'échange.
Oui, ben vous voyez, Claude, que le contraste entre les deux personnages est très, très marqué. Hein. Tout le long du récit, on est tout à fait dans le style des contes du temps, avec des rôles très typés. Ici, dans le but d'illustrer l'opposition riche et pauvre, et bien sûr, le renversement de situation. Un peu comme on le trouve dans la prière de Marie, hein, le Magnificat, ou dans les Béatitudes, selon l'Évangile de Luc. On va revenir d'ailleurs à ces deux textes-là. On voit qu'après la mort, le renversement est quasiment automatique. Ça aussi, on devrait y revenir, mais il y a des gens, c'est cet aspect-là qui les choque. Hein. Il y a une sorte de simplisme là-dedans. Avant, tu étais heureux, là, tu es malheureux. L'autre était malheureux, là, il est heureux. Si on le prend comme ça, d'une manière simpliste, ça a quelque chose d'un peu choquant. Mais on ne doit pas rester sur ce simplisme-là, parce que chez Luc, c'est toujours associé à un autre thème très important que vous avez souligné dès le début de l'émission, Claude, c'est le rapport problématique à l'argent. C'est un thème qui traverse tout son évangile et la question du partage aussi. Je parlais de deux aspects choquants. Il y a d'autres personnes qui sont plutôt choquées par la première partie, c'est-à-dire cette situation initiale d'opposition immense entre les deux, hein, une richesse immense et une misère extrême.
C'est ça, le contraste, il est immense.
Oui, puis très systématique. On nous parle des vêtements de l'un et de la peau malade de l'autre. On nous parle des festins de l'un et de la faim de l'autre. C'est assez systématique comme opposition. Sur les vêtements, on peut dire, les vêtements du riche, bien sûr, c'est la pourpre, hein? Bon, c'était peut-être pas précisé là dans la traduction du lectionnage, j'ai modifié un tout petit peu pour être plus proche du texte de Luc. La pourpre, une teinture utilisée par les rois, par l'empereur romain, le lin très fin, c'est des vêtements de grand luxe. Il est pas juste riche, je dirais, c'est jet-set, ce type-là. Il est dans les 2% de la population de la planète, là. C'est jet-set. Les banquets, bon, festoyer, ça n'est pas péjoratif dans l'Évangile de Luc, particulièrement, on vient de l'avoir au chapitre précédent, dans la finale de la parabole de l'enfant prodigue. C'est le verbe qui est employé. Le père veut festoyer parce que son fils est revenu. Sauf qu'on voit bien dans cette parabole-là, c'était exceptionnel. Dans la parabole d'aujourd'hui, on précise, il fait ça tous les jours. Les banquets de fête, c'est tous les jours. Alors, c'est le grand, grand, grand luxe. La situation de Lazare, elle est plus détaillée par le récit. D'abord, il est jeté et non pas gisant. Le verbe qui est là, il est jeté, et ça n'est pas à la porte, mais dans le portique, qui est presque dans la maison. C'est une maison de riche, et donc il y a un portail, le vrai mot, c'est portail. Il est un peu dans la maison. Et sa peau est couverte d'ulcères ou d'abcès, contrairement aux habits. C'est ça, son habit, c'est la maladie. Et il crève de faim, par opposition au banquet. Il a tellement faim qu'il voudrait manger ce qui tombait de la table. On peut se rappeler encore là le prodigue qui aurait voulu manger ce qui était donné au porc. Au chapitre précédent, c'est la même expression. Alors, c'est pas les miettes qui tombent de la table, hein, c'est une table de riches. Ce qui tombe, ce sont les morceaux de pain avec lesquels les gens se suent les doigts. On mange avec ses doigts, on les trempe dans les plats puis
ben
de
oui,
sauce.
Ben oui, il n'y a pas de serviette. Alors, non. C'est le pain qui sert de serviette.
C'est ça.
Et puis on jette à terre.
Et c'est les chiens, évidemment, de la maison qui les ramassent. Mm-hmm. Alors, non seulement les chiens ont priorité sur Lazare, mais en plus, ils le harcèlent et ils ajoutent à sa misère. C'est pas seulement la misère, hein, je trouve, que les chiens ajoutent. C'est l'élément de l'absence complète de dignité qui est dévolu à cet homme. Il est même victime des chiens. Donc, la situation, elle est extrême, elle est scandaleuse, elle est choquante. C'est une injustice sociale absolument choquante. Je la trouve plus choquante, personnellement, cette première partie, que les renversements de la deuxième partie.
C'est vraiment deux situations là, très, très, très autres.
Aux
antipodes l'une de l'autre.
Pourrais-je anticiper sur la suite en disant qu'un abîme les sépare? C'est ce qu'on va avoir dans la deuxième partie.
Excès, ben oui.
Je rappelle juste, encore une fois, le contexte du chapitre 16. Tout juste avant, Luc venait de dire, entre autres, « Nul ne peut servir deux maîtres, vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. » Pourquoi est-ce que servir l'argent est incompatible avec Dieu? Le récit, ici, vient éclairer cette phrase de la liturgie de la semaine dernière.
Qui venait juste avant, là. C'est ça
oui,
que vous dites,
oui,
là.
Oui, c'était à la
Nul
suite. «
Nul ne peut servir deux maîtres.
Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent.
Dieu et l'argent. Et la parabole vient tout de suite après.
C'est ça. Ah, ben, presque tout de suite. Ouais. Il y a quelques discussions avec les pharisiens, toujours sur le thème de l'argent,
c'est
d'ailleurs.
Ça. OK.
Alors, le récit met en scène, au fond, ce qui pourrait être une réponse à la question pourquoi est-ce que c'est incompatible de servir l'argent et Dieu en même temps. C'est parce que ce que le récit semble mettre en scène, c'est que la richesse rend aveugle à ceux qui manquent. Hein. Ne manquer de rien, c'est comme si ça implique ne pas voir ceux qui manquent. Je signale en passant, on dit souvent le mauvais riche, c'est écrit nulle part le mauvais riche, c'est simplement le riche. Je ne veux pas dire qu'il est bon, je veux dire que le récit ne le qualifie pas moralement. Il suggère plutôt que être riche, ça rend comme ça.
Oui, ça, je pense qu'il faut répéter ça. Hein. Ne manquer de rien, c'est de ne pas voir celui à qui il manque tout.
Ça t'amène pas, ça t'éveille pas à voir celui
c'est
qui
ça.
Manque, même s'il est dans ton portique. Ce qui va avec la richesse, c'est j'en profite. C'est je manque de rien, je n'ai besoin de personne. Et à la limite, donc, on ne voit pas. D'ailleurs, si on vit dans les hauteurs du jet set,
on ne voit pas
la misère humaine.
Alors, l'évangéliste, en plaçant Lazare si proche, il met ça en évidence
que l'autre,
que celui qui manque de rien ne voit pas.
Ce pauvre, misérable qui est dans sa maison, quasiment. En même temps, on se dit, mais la vie humaine, là, ça peut pas être juste ça, là, porter des habits de luxe, fêter tous les jours. Ça arrive, ça. Bon, je pense encore là au fils prodigue, la parabole, l'habit est luxueux, la tunique, l'anneau, le festin. Sauf que dans ce cas-là, ça servait la relation entre le père qui avait perdu et le fils qui est retrouvé. Ici, on a l'impression que ça ne sert pas la relation. Or, ce riche, sa richesse lui donnerait les moyens financiers de donner. Hein? Mais il ne donne pas.
Ben, il ne voit même pas.
Non, c'est ça. La richesse, ça induit à accumuler, à consommer pour soi. C'est l'autosatisfaction. Ça génère un peu l'égocentrisme. Hein? Je préfère ça à l'égoïsme qui est un choix moral. C'est une parabole sur le fonctionnement de la personne riche, au fond. Quand tu as besoin de rien ni de personne, tu ne vois pas ceux qui crèvent.
C'est ça. La richesse érige un mur.
Oui,
entre les humains, finalement.
D'ailleurs, quand est-ce qu'il va voir enfin Lazare dans notre récit? C'est quand lui-même va être mal pris. En passant, quand est-ce que l'intendant de la semaine passée décidait de réduire la dette des endettés? C'est quand lui-même savait qu'il allait perdre son emploi. Il y a une sorte de constante, moins dans le chapitre 16. Là. Donc, ça veut dire que le récit nous incite à dépasser les simplismes, genre les riches sont méchants, les pauvres sont bons. D'ailleurs, Lazare n'est pas qualifié de bon ou de juste non plus. Ça illustre plutôt un fonctionnement dans les relations humaines, particulièrement quand la grande richesse est en cause. Ici, je rappelle que le nom de Lazare, c'est Dieu aide. Hein. On le comprend habituellement et avec raison. Dieu aide le pauvre, le malheureux. Je ne sais pas si vous avez vu, Claude, le psaume qui est dans la liturgie de cette semaine. C'est le psaume 46. C'est tout à fait ça. Vous pouvez même nous en lire. J'en ai mis une phrase ou deux.
Et il comble les pauvres, fait justice aux opprimés, donne le pain aux affamés, il redresse les accablés.
Vous voyez, c'est ça, hein, que le psaume dit « Dieu aide le malheureux ».
Voilà, et puis dans le Cantique de Marie, il renverse les puissants et il élève les humiliés, il rassasie les affamés et renvoie les riches les mains vides.
C'est ça, et je rappelle que cette prière de Marie, qu'on appelle le Magnificat, elle est aussi dans l'Évangile de Luc, hein, chapitre 1, les versets 45 et suivants. Donc, on voit le sens du nom de Lazare est pertinent, Dieu va l'aider. C'est le sens le plus évident.
C'est ça. Et on arrive au verset 22, c'est là que le riche et le pauvre deviennent égaux devant la mort inéluctable.
Et voilà. Et la situation après, vous remarquerez qu'il est renversé, présente exactement les mêmes contrastes, très, très marqués, mais cette fois avec plus de détails pour la situation du riche, qui est mal pris. Bon, une petite note sur l'ensemble de cette situation après, là, avant de regarder les personnages. On est tout à fait dans le style de l'apocalyptique juive. Ce sont des images populaires, courantes en monde juif sur le séjour des morts. Et c'est pas le paradis et l'enfer. Ils attendent la résurrection des morts et le jugement dernier. Ça faisait partie de l'imagerie dans les textes juifs de l'époque. Et le décor, le vocabulaire, on le retrouve là. On attend dans un séjour assez confortable pour ceux qui seront probablement jugés justes et un séjour un peu plus souffrant pour ceux dont c'est pas sûr. Donc, on n'est pas encore au jugement dernier là. On est dans l'attente, la salle d'attente confortable et puis la salle d'attente très inconfortable.
Et ce que vous dites, c'est ça, c'est que ce qu'on a là, c'est le reflet de la conception que l'on se faisait. Qu'est-ce qui se passe après la mort?
En monde juif, avant le jugement dernier. Okay. Donc, Jésus ici ne nous donne pas un enseignement sur comment ça se passe de l'autre côté. Là. Il n'est pas en train de nous apprendre quelque chose sur ce qui se passe de l'autre côté. Ce n'est pas le but du récit. Donc, je disais, ce récit illustre les renversements, évidemment, avec les mêmes contrastes, et c'est irréversible. Il y a un grand abîme qui les sépare, tout comme il y avait un grand abîme qui les séparait pendant la vie. Je rappelle, par contre, que cet abîme, le riche aurait pu le franchir pendant leur vie.
Tandis que là, il est trop tard.
Là, il est trop tard. Mm-hmm. Hein? Et on pourrait dire, finalement, cet abîme, par son indifférence, il l'a lui-même creusé. Oui. Et donc, maintenant, il est pris avec. Finalement, donc, le riche voit l'autre, le voit Lazare, et il demande compassion à Abraham, et il demande l'aide de Lazare. Et en passant, il instrumentalise Lazare. Hein, il ne s'adresse pas à lui. Il dit à Abraham, dit à Lazare de faire ci, faire ça, faire ça. Hein.
Vous avez raison. Il ne s'adresse même pas directement à lui.
Il n'a pas retrouvé le sens de la dignité de Lazare, de miettes. Là.
C'est ça, le fossé demeure. Quoi.
Voilà. Il reste enfermé en lui-même, hein, et c'est trop tard, pour avoir de l'aide, c'est la réponse d'Abraham. Le riche, finalement, il est tenu par les conséquences de ses règles de vie. Et ça nous rappelle tout à fait les béatitudes dans l'Évangile de Luc, au chapitre 6, les versets 21 et suivants. « Heureux vous qui avez faim, vous serez rassasiés. » On n'est pas dans Matthieu, là. C'est pas « Heureux vous qui avez faim et soif de justice. » C'est « Vous qui avez faim. » Parce que vous mangez pas. Vous avez rien à manger. Et Luc ajoute à ces quatre béatitudes quatre autres phrases inverses. Malheureux vous les riches, vous avez votre consolation. Malheureux vous qui êtes pu maintenant, vous aurez faim, etc. C'est malheureux, c'est pas malheur à vous les riches.
C'est donc important ce que vous dites
oui,
là.
Oui, c'est ça fait drôle de prononcer ça. Le mot grec qui est là, c'est ouais. C'est une exclamation de chagrin. Hein? C'est une interjection. C'est « hélas pour vous » et non «
malheur à vous ».
C'est pas « j'appelle le malheur sur vous », c'est « quel dommage, hein? Malheureusement pour vous
okay.
que vous soyez riche ».
Ouais, c'est très important, ça.
Alors, ici, j'aimerais faire une précision sur quelque chose qui m'agace. Dans la traduction du lectionnaire, Abraham répond au riche, « Tu as reçu le bonheur pendant ta vie et Lazare le malheur. » Alors maintenant, ici, il est consolé et toi, c'est ton tour de souffrir. D'abord, c'est pas bonheur qui est là, c'est ton tour de souffrir. Dire ça, ça équivaut à dire « t'es puni pour le bonheur » ou « être heureux, ça se paye ». Et ça, là, faut payer pour nos bonheurs, là. On entend ça tout le temps et j'entends toujours avec ça. Ça, c'est judéo-chrétien, hein? D'abord, c'est pas vrai que c'est judéo-chrétien. Cette idée de dire qu'il n'y a pas de conséquences à nos actes, c'est juste parce qu'on est puni, là. Puis ça, c'est dans la mentalité judéo-chrétienne. Ça m'agace prodigieusement, hein? D'abord, dans la réalité, la sagesse populaire le dit bien. Tu craches en l'air, ça te tombe sur le nez. Pas besoin de quelqu'un qui te punit, hein? Alors, le récit ne dit pas du tout « t'as été heureux », comme dit le lectionnaire, « t'as reçu le bonheur ». Non, il dit « t'as eu tes biens, tes richesses ». Le mot qui est là, c'est « tes biens », c'est pas le bonheur. Et surtout, le récit ne dit pas « c'est ton tour de souffrir ». Ça, c'est effrayant d'avoir traduit comme ça. Ces mots-là sont pas là du tout. Les mots du texte, c'est « maintenant il trouve ici la consolation, toi la souffrance », tout simplement. Le texte ne fait que constater, la parole d'Abraham constate. Lui était malheureux, ici il est consolé, « toi, tu as été riche, ici tu souffres. Il dit pas pourquoi. Il ne fait qu'émettre la constatation. C'est pas ton taux de souffrir, non, comme s'il fallait à tout prix que ce soit notre taux de souffrir si on est heureux. Ça n'a pas de rapport. Donc, Abraham ne fait que constater. Si on va plus loin, parce que le récit continue, il ne s'arrête justement pas sur ce simplisme-là, c'est l'appel à la conversion. Hein. Le riche commence à allumer sur le fait qu'il y a d'autres personnes aussi, et là, il se met à s'inquiéter pour ses frères. C'est pas la plus grande altérité, là. Il s'inquiète pas pour la planète et pour les pauvres en général.
Non, la famille.
C'est
la famille
sa famille
proche,
qui est probablement aussi riche que lui, hein, puisque ça l'inquiète. Mm-hmm. Il dit, en fait, à Abraham, il instrumentalise encore Lazare, envoie-leur leur dire, hein, que même s'ils sont riches, c'est pas comme ça qu'il faut vivre, sinon ça va mal pour nous après. On est dans l'appel à la conversion et Abraham lui répond, ils le savent déjà, ce qu'ils ont à faire et comment ils doivent vivre, là, pas besoin de ressusciter, c'est déjà dans la Torah, c'est déjà dans les prophètes, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. C'est pas un signe extraordinaire comme le retour d'un mort qui va changer ça, c'est une attitude que tu dois avoir, que tu dois cultiver, que tu dois développer toi-même, ça doit venir de toi ça. On en a plein de passages chez les prophètes. Il y en a plein dans le Deutéronome. Ici, la première lecture, elle est très intéressante, très bien choisie. Amos, on a un portrait de la classe dirigeante d'Israël. Hein. Ils sont vautrés sur des lits d'ivoire. Ils mangent les meilleurs agneaux. Ils boivent le vin à même la bouteille. Ils se frottent avec des parfums de luxe. Mais ils ne se tourmentent pas du désastre d'Israël. On voit, c'est pas juste la description de la vie luxueuse, c'est ils se fichent des autres. Ils se fichent d'Israël, c'est pourquoi ils vont être déportés. Et Tom traduit la finale, j'aime bien, fini la confrérie des avachis. Et donc, le malheur va leur tomber dessus, c'est la conséquence de leur style de vie. Je signale en passant que ça fait bien longtemps qu'on sait que c'est vrai même dans les rapports actuellement entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Hein. Je veux dire, si on continue de vivre dans le luxe puis d'appauvrir les autres pays, à un moment donné, on va crever nous aussi. Ça peut pas marcher, ça. Donc, on a un message éthique très clair dans Amos et les frères du riche devaient l'entendre et le riche aurait dû l'entendre aussi. C'est dans son héritage. L'avertissement que Abraham donne, il est rude, il est brutal. Tout à fait de type « malheureux êtes-vous les riches hein? », c'est Amos. « Hélas, pour vous, l'argent vous enferme dans votre bulle. » Et donc, ça vous détourne de la compassion. L'argent vous empêche d'entrer dans le projet du règne de Dieu. L'argent t'empêche pas d'entrer au ciel, mais qui t'empêche d'entrer dans le partage, dans l'altérité, l'accueil, l'échange, bon, le donner, recevoir. On peut pas y entrer dans l'autre vie si on l'inscrit pas dans notre vie. J'aimerais, Claude, pour terminer, revenir sur le nom de Lazare. Dieu aide, on le comprend avec raison, Dieu aide le mal pris, c'est vrai. Puisque la dynamique du règne de Dieu, c'est la dynamique du partage, ça devrait aider le mal pris, hein, ça c'est sûr. Mais j'aimerais vous proposer aussi une autre manière de le comprendre, hein, à cause des demandes du riche dans l'au-delà qui voudrait se faire aider par Lazare interposé. En fait, c'est pendant sa vie que Lazare aurait pu aider le riche.
C'est vrai.
Mm-hmm. Ça fait peut-être drôle de dire ça parce que ça nous paraît tellement évident que c'est le riche qui aurait dû aider Lazare. Mais il me semble que la présence de Lazare dans sa vie, elle aurait pu être pour lui Dieu aide. Parce que être aussi misérable devant lui, ça aurait pu éveiller sa compassion, ça aurait pu le faire entrer.
Dans le projet de Dieu, finalement.
Dans le projet de Dieu, ça aurait pu le troubler, l'aider à prendre conscience de la misère des autres, ça aurait pu éveiller son sens de la dignité humaine. Je veux pas dire que les pauvres sont là pour nous aider. Je veux juste dire que dans la logique limitée de ce récit, ce personnage qui est le seul à être nommé dans toutes les paraboles, il me semble, il est placé là, dans la porte, dans le portique du riche, pour aider le riche à avoir un peu de cœur devant la misère des autres, à voir qu'il peut recevoir de Lazare un appel à la conversion. Bien sûr, le riche voudrait que Lazare l'aide après sa mort, mais c'est pendant sa vie que Lazare aurait pu l'aider. Alors, je trouve que c'est intéressant et que ça rejoint très bien une des phrases de la semaine dernière, après la parabole de l'intendant malhonnête. où Jésus concluait, « Faites-vous des amis avec l'argent trompeur. » L'argent nous trompe. Alors, « Faites-vous des amis avec l'argent qui vous trompe, afin que le jour où cet argent ne sera plus là, ses amis vous accueillent dans les demeures éternelles. » C'est un écho exact de ce qui aurait pu se passer ici. La présence de Lazare aurait pu faire en sorte que le riche agisse de manière à être accueilli dans les demeures éternelles. L'appel à la conversion, il n'est pas là pour les morts, il est là pour les vivants que nous sommes.
Francine Robert est professeure à l'Institut de pastoral des Dominicains à Montréal. À la technique Vital Côté, c'est Claude Julien qui vous parle et qui vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure.